Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France, Michel Picot sur BFM Business.
Bienvenue, notre invité cette semaine a imaginé et créé une filière pour la distribution de fruits et légumes mal formés, donc considérés comme invendables. Et pourtant, il est parvenu à trouver une solution pour ces fruits et légumes baptisés gueules cassées et qui partent normalement à la benne. Bien, désormais, ils sont vendus. Et après les gueules cassées, il a créé aussi ses kills patrons ou comment payer au juste prix les producteurs de lait imposés. Un prix grâce aux consommateurs. Là aussi, tout le monde pensait que c'était impossible. Eh bien, il l'a fait. Nicolas Chabanne sera notre invité dans quelques instants. Au sommaire également, dans cette émission, la boîte à outils pour créer, reprendre ou développer son entreprise. Alexandre Vogue, fondateur et président de ilou.com, nous racontera ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. Nicolas Vedovato, président fondateur de entrepreneur.fr, viendra lui nous expliquer pourquoi il ne faut pas entreprendre tout seul. Enfin, Pierre Pelouzet, le médiateur national des entreprises, sera là avec un dossier concernant de terribles retards de paiement, plus de 180 jours pour se faire payer. Soyez les bienvenus dans ce Business Club de France numéro 446. Le saviez-vous, chaque année, 40% de la production mondiale de nourriture ne voit pas un estomac humain. En France, 17 millions de tonnes de produits parfaitement comestibles ne sont pas consommés. Des milliers de kilos de pommes, d'abricots déformés, de cerises à peine fendues, de tomates biscornues sont jetés par les producteurs qui n'ont pas de débouchés valorisants pour ces fruits et légumes moins jolis et pourtant aussi bons. Et c'est à partir de ce constat que notre invité a eu l'idée de réhabiliter ces fruits et légumes avec des défauts d'aspect peut-être, vendus 30% moins cher, mais qui ont les mêmes qualités gustatives. C'est le début de l'aventure, une aventure qui s'est appelée les gueules cassées, elle continue toujours. Nicolas Chabanne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de vous accueillir dans le Business Club de France. J'ai beaucoup de questions à vous poser, car au-delà de ces fruits et légumes, je dirais qui sont pas jolis, hein, on les appelait comme ça à l'époque, il y a aujourd'hui, c'est qui le patron? Et là, on va parler de lait. On va en parler dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on fasse un point sur les gueules cassées. Comment a démarré cette aventure? C'est en voyant un producteur jeter des abricots que vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose à faire?
Depuis longtemps, on travaille, nous, sur la qualité des fruits et légumes. C'est, on vient de là, hein. On est du Vaucluse et on a des très bons fruits et légumes là-bas qu'on a toujours valorisés, notamment à une époque en mettant la photo des producteurs, ça s'appelle le petit producteur, la photo sur la barquette de fraises, d'abricots. Et quand on a cette famille de producteurs qui délivre des produits absolument géniaux parce que gustatifs, fait en petit rendement, avec beaucoup de soin, et qu'on voit, c'était, je me rappelle, dans le Luberon, un producteur d'abricots qui jette sous son établi une partie de ses abricots tellement bons, on lui pose la question, pourquoi est-ce que tu écartes ces abricots? Et donc la réponse était simple,
il savait pas quoi en faire, quoi, finalement.
C'était parfaitement bon, évidemment, mais la petite tache, la forme qui est pas parfaite, les déclasser. Et donc il y avait un risque, comme il me le disait, de voir toute une palette, parce que 2-3 étaient pas parfaitement ronds ou de la bonne couleur, être écartés et renvoyés. Donc cette peur du défaut pour le petit abricot a fait que des tonnes et des tonnes de produits étaient absolument pas commercialisés, alors qu'ils étaient évidemment aussi bons.
Ouais. Mais pour les gueules cassées, il a fallu créer un réseau de distribution, j'imagine, convaincre la grande distribution de créer des espaces pour ces produits-là, mettre une logistique peut-être en place pour pouvoir les collecter et les mettre en rayon. Comment ça s'est passé?
Nous, on a, depuis le début, une idée toute simple. Comme on est depuis toujours des petites structures, on n'a pas déployé de moyens par-dessus les moyens existants. On s'est dit, si une idée doit exister, il faut qu'elle soit partagée par tout le monde et à un peu plus que 10% de l'intérêt pour voir ce que ça peut donner. Donc à chaque fois, les gueules cassées, c'était le cas, on s'est tourné vers les distributeurs en disant, les consommateurs montrent des signes clairs, acheter des produits aussi bons avec des petits défauts, vendus 30% moins cher pour limiter le gaspillage, il y avait quand même une équation qui fonctionnait. Les distributeurs ont tout de suite dit, c'est tout à fait dans notre métier de mettre des produits de qualité avec des petites particularités et en plus accessibles moins cher. Donc ça s'est fait tout naturellement. On a évidemment un peu travaillé, mais il y a beaucoup de distributeurs qui se sont manifestés en disant, on veut se joindre à ce défi collectif, limiter le gaspillage, ramener des produits avec des défauts d'aspect en rayon, et puis amener aussi des bonnes affaires, parce que c'est 30% moins cher pour les consommateurs.
C'est clair. Vous en êtes où aujourd'hui avec les gueules cassées? Le concept a s'est développé en France, on l'a vu, il existe toujours, il a même dépassé nos frontières, je crois.
Oui, la France a, alors il y a des distributeurs qui aujourd'hui vendent des fruits et légumes, mais d'autres sont allés plus loin, comme Carrefour qui a développé toute une gamme, et ça c'est important, de produits hors fruits et légumes, des camemberts avec des petits défauts d'aspect. Ce qui est incroyable, c'est de voir qu'un camembert avec une forme pas parfaitement idéale, ce qu'on appelle une casquette ou une robe tourmentée, c'est-à-dire des plis sur la robe, sort du cahier des charges établi et se retrouve déclassé, fondu, voire jeté. Carrefour a dit, on les récupère, nous, on est prêts, et on a donc créé une gamme élargie, camembert, charcuterie, voilà, là, il y a de nouveaux produits qui arrivent, et c'est autant de bonnes affaires, sorties du gaspillage, qui deviennent des produits tout à fait consommables, parce qu'encore une fois, le témoignage qu'on a, c'est que rien n'est plus égal en goût qu'une tranche de charcuterie légèrement imparfaite, par rapport à sa petite sœur qui, elle, était au centimètre près, conforme au cahier des charges. Donc voilà, c'est tout à fait large. Vous avez raison de dire que il faut prendre conscience de ça, on a 1,3 milliard de tonnes au niveau mondial qui, chaque année, est écartée, ne voit pas un estomac humain, donc c'est hein, c'est des aliments parfaitement consommables, aussi bons que les autres, qui peuvent être vendus moins cher, qui ont déjà été payés, financés, et qui font finalement de la pollution à l'aller en étant créée et au retour en étant détruite. On a tout intérêt à récupérer ce bien collectif, et nous, consommateurs, à dire aux distributeurs, on est prêt à acheter tout ça.
Voilà, et même avec moins 30% en prix affiché, c'est peut-être une marge moins importante, mais ça reste quand même une pour l'ensemble des acteurs. Plutôt que ça parte à la poubelle, quoi, pour être très clair.
C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Un produit qui partait à la poubelle, qui ne générait pas le premier niveau de marge pour, évidemment, aucun intermédiaire et qui ne voyait pas le consommateur final, recrée de la valeur quand, à un moment donné, au lieu d'être à zéro, il est à moins 30% en reconstituant une chaîne de marge. Donc, c'est tout à fait rentable pour un distributeur de mettre ses produits en rayon. C'est un fabuleux produit d'appel, parce que comment trouver des produits à qualité égale aujourd'hui sur le marché? 30% moins cher, ça n'existe pas, à part dans ce gisement qu'il faut aller chercher pour des bonnes raisons, des raisons anti-gaspi, et qui est vraiment à portée de main. Donc c'est vrai qu'en France, on a initié la démarche, c'est parti dans le monde entier, il y a eu un article du New York Times qui a propulsé la démarche vraiment dans plus de 20 pays aujourd'hui. C'est pas nous qui gérons toutes les initiatives dans tous les pays, mais le modèle inventé en France s'est développé à travers le monde.
Comment vous l'expliquez avec un peu de recul, ce succès? Parce que vous avez réalisé quelque chose que personne n'avait pensé ou ne voulait faire. Hein. Avant, on préférait jeter, c'était beaucoup plus simple, ça évitait de créer de nouveaux rayons en grande distribution. Comment est-ce que vous l'expliquez? Parce que on va parler tout à l'heure du prix et de c'est qui le patron, mais là, le consommateur est vraiment un acteur. Mais là, pour le coup, c'est juste un constat de produits jetés et qui aurait pu rapporter un petit peu au producteur.
Ben, c'est la grande question qu'on s'est posée. Mais la différence entre il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est que quand on a dans son coin une petite idée en se disant ça serait quand même pas mal qu'on puisse faire ça, ça me semble à moi intéressant et logique, on a le doute évidemment immédiat de savoir si ça peut être une bonne idée pour les autres. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait avec les gueules cassées, on a posté et si on vendait les fruits et légumes avec des petits défauts d'aspect plutôt que de les jeter. Cette question toute simple a fédéré des réponses, de l'enthousiasme, du partage, qui nous a évidemment rassurés. Hein, on est là en contact avec toute une communauté de gens qui pensent comme nous. C'est un début d'étude de marché intéressant. Le distributeur se dit, tiens, il se passe quelque chose, les consos semblent être tout à fait décidés pour le faire. Et voilà comment, avec les outils nouveaux, alors c'est qui le patron est un autre exemple, mais le digital, la connexion rapide entre les gens, la capacité qu'on a à se parler, permet à une idée de bon sens, si je m'autorise à dire ça. C'est-à-dire que c'est tellement simple de se dire ne jetons plus ces produits avec des petits défauts d'aspect. Et quand on se rend compte que cette idée toute simple est chez beaucoup de gens au même moment, ça devient généralement un succès.
C'est tellement simple, mais on travaille tellement sur les marges, et notamment la grande distrib, elle aurait pu se dire, ah ben non, je vais pas me rajouter ça. À la limite, j'en veux pas parce que déjà je baisse ma marge et puis c'est une logistique supplémentaire et j'ai pas envie de le gérer. Puis finalement, ça a pris. Vous êtes donc sensible à la défense des petits producteurs. C'est un peu votre moteur, ça, non?
Je l'ai presque découvert, parce que quand avec vos confrères on fait des articles sur plusieurs pages en refaisant tout l'itinéraire, on se rend compte soi-même qu'on a un moteur qui repasse toujours par les mêmes chemins. Le petit producteur, c'était mettre la photo d'un producteur qui fait des efforts particuliers pour qu'il soit payé 30% plus cher contre son travail. Tout le monde était gagnant, la qualité du produit était là. Les gueules cassées, c'est arrêter de voir un producteur qui jette une partie de son travail et qui l'amène jusqu'au consommateur. Et c'est qui le patron ? C'est l'aboutissement le plus absolu, puisque là, c'est le volant qui est mis dans les mains directement du consommateur.
Ouais, on va en parler, juste une petite parenthèse pour l'anecdote. Quand je dis que vous aimez les petits producteurs, c'est que vous êtes membre de la confrérie de la fraise de Carpentras, ville qui vous est chère, qui m'est chère aussi d'ailleurs, parce que j'ai commencé là-bas à faire de la radio, pour la petite parenthèse. Mais ça, qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre rôle au sein de cette confrérie ?
Une confrérie, c'est évidemment des gens merveilleusement bien habillés à chaque fois qu'il y a une fête pour célébrer des choses. Mais si vous voulez, une confrérie, c'est intelligent parce que ça rassemble bien sûr les producteurs, mais autour là de la fraise de Carpentras, ça rassemble l'emballeur, celui qui transporte, celui qui fait de la logistique. Et bien évidemment, il fallait un communicant, quelqu'un qui puisse amener cette information jusqu'aux médias. Et c'est comme ça qu'on m'a demandé d'intervenir.
Et jusqu'à l'Élysée aussi.
Voilà, on s'est dit un jour, vous voyez comme quoi dans la vie, bien des choses sont possibles. Dans une réunion, on s'est dit, mais il faut amener ce produit à l'Élysée, ça sera une façon d'attirer l'attention. Toute la salle de réunion a dit, mais c'est impossible d'amener un produit à l'Élysée. À l'époque, c'était avec Jacques Chirac. Et puis, on s'est dit que finalement, si personne ne demandait, ça nous laissait encore plus de chances d'avoir une réponse positive. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à l'époque, on nous a accueillis très gentiment. Et depuis, chaque année, la confrérie revient à l'Élysée pour amener ses premières phrases annuelles.
Alors, Les Gueules Cassées, c'est un label qui fait partie de votre société, une société coopérative d'intérêt général qui s'appelle Trois Couleurs, hein, c'est bien ça. Et elle a une particularité, cette société, puisque l'actionnariat est ouvert à tous pour 1 euro et pas plus d'une action par personne. Moi, je trouve déjà même le concept est original. Pourquoi vous êtes parti sur un statut pareil ?
Parce que la naissance, l'arrivée de C'est qui le patron, la marque du consommateur, dit bien dans son nom, et c'est qu'on ne le voyait que comme ça, que pour pouvoir s'appeler comme ça, il faut véritablement que ce soit la société des consommateurs. Ça peut pas être une start-up très sympathique qui vient au nom des consommateurs refaire un habillage marketing d'une idée sympa, d'une idée quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc là, on s'est dit, la marque du consommateur, c'est vraiment, et ça doit être la marque des consommateurs. Donc on a ouvert cet actionnariat, on l'a limité pour pas qu'on puisse mettre plus d'un euro, l'enjeu était pas financier, mais avec 1 euro une action, vous êtes actionnaire avec tous les droits et tous les droits de vote de votre société qui produit des produits directement issus de vos attentes. Donc on trouvait que c'était important d'aller au bout de la logique.
On est dans l'esprit, on l'a vu avec Les Gueules Cassées, mais c'est beaucoup plus vrai avec C'est qui le patron. Parce que là, le consommateur, il fait partie du dispositif, du concept que vous avez mis en place. Vous avez associé les consommateurs, les petits producteurs. Vous avez pu discuter différemment avec la grande distribution. Vous avez, je pense, un peu réalisé la quadrature du cercle.
Écoutez, c'est gentil de le voir.
C'est parce que ça marche très fort. On va peut-être rappeler le concept de C'est qui le patron.
C'est qui le patron ? C'est au départ, pour se rendre compte de ce qui s'est passé, il y a 1 an, des consommateurs qui voient des producteurs de lait dans une situation dramatique, 2 producteurs mettent fin à leur jour en France, c'est absolument insupportable quand on est nous consommateurs et qu'on sait que notre argent, bien involontairement, alimente un système comme celui-là. Donc là, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas redessiner les cahiers des charges, la répartition de valeur, puisqu'aujourd'hui, avec le digital, on a un moyen d'aller très vite. Et c'est comme ça qu'est née d'abord la volonté de faire une brique de lait qui, de façon garantie, assure aux producteurs de quoi vivre. Ça, c'était le point de départ. Et puis, quand on a mis en place sur Internet cette logique de questions posées aux consommateurs, là, bonus incroyable, est arrivé finalement un nouveau modèle, qui d'ailleurs, là, encore une fois, nous est très demandé à l'international, qui renverse totalement toute une époque du push, finalement, du push marketing ou comme. Pendant des années, on faisait un produit dans une salle de réunion en tant qu'expert en se disant, on espère que ce qu'on a décidé va plaire à un consommateur à l'autre bout, mais il restait tout le chemin d'aller lui expliquer. Ouais. Alors que là, en partant du lait, on a posé une question très simple sur un blog, en plein mois d'août, on pensait que ça bougerait pas et ça s'est enflammé. Est-ce que vous êtes prêt à rémunérer le producteur un peu plus Donc vous aviez un prix de base à 69 centimes qui vous indiquait la traduction ensuite en rayon. Mmh. Le un peu plus, c'était 4 centimes, 73. Au juste prix, c'était 7 centimes, 77. Une semaine de vacances par an, est-ce que on mettrait pas dans le prix de quoi permettre à un producteur de partir et de prendre un peu de temps libre ? 2 centimes de plus, 79. Et puis on s'est dit, on s'arrête pas là. Le producteur a dit, mais vous savez, quand vous nous amenez des centimes, nous, vous nous donnez l'occasion de vous proposer de la qualité en échange. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on enlève les OGM de l'alimentation ? On l'a retraduit par 5 centimes, les vaches au pré, au pâturage. Donc finalement, pour la première fois dans l'histoire de l'agroalimentaire, les consommateurs qui allaient acheter le produit étaient en amont dans l'élaboration des critères du cahier des charges avec un œil directement sur le prix final. C'est ça, je pense, qui a créé le succès de C'est qui le patron ?
Alors, nous avons je vais vous demander de prendre le casque, Nicolas Chaban. Nous avons avec nous un producteur, il s'appelle Martial Darbon. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de la coopérative Bresse-Val-de-Saône. Vous avez entendu Nicolas Chaban à l'instant parler un petit peu du concept. Qu'est-ce que cela vous a apporté pour vous, ce label C'est qui le patron ?
Ah ben nous, il y a eu un changement fondamental. Vous savez, avant de se rencontrer avec Nicolas, nous vendions notre lait à l'export en Italie et la perte était autour de 120 euros la tonne de lait par jour et par personne dans les exploitations. Donc il n'y a qu'à imaginer facilement, avec quel désespoir on se levait le matin pour s'occuper de nos animaux, pour être encore un peu plus pauvre le soir et pour dire tenons bon, tenons bon. Et donc de retrouver un consommateur qui nous propose un deal d'un lait tracé et d'un lait équitable et nous permet de vivre avec ce pont d'interaction consommateur-producteur, on a tous ça a été pour nous une aubaine et une façon de retrouver le soleil.
Ouais, une sacrée bouffée d'oxygène. Vous me disiez qu'avant vous vendiez à perte.
Tout à fait.
Moi j'ai vu quand même des horaires pas possibles. C'est 105 heures de travail à peu près par semaine pour vous. Dans le meilleur des cas, 350 euros par mois de revenus.
Ouais.
Ah ouais.
Oui, ben non, mais attendez, c'est même plus compliqué que ça. Les 350 euros, c'est anecdotique parce que si vous voulez, dans une société, dans un nombre d'exploitants, vous avez effectivement des fins de carrière, des gens en croissance de carrière et des gens en démarrage de carrière. Et il y a un véritable drame sur le démarrage de carrière avec des gens qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à prendre le dessus, qui n'arrivent pas à se sortir des salaires. Vous avez une catégorie de gens au milieu qui essayent de se débattre parce qu'ils se disent ils ont des investissements et il faut tenir, et puis vous avez la fin de carrière qui dit je tiens bon parce que je vais aller au bout. Et donc on a une espèce de forme là, anecdotique de mise sous douleur économique en permanence à cause des prix. Et là, le vrai deal de ce dossier, c'est que le consommateur propose un prix serein, une sérénité dans notre travail et permet effectivement de rendre une relation avec la société qui est complètement différente.
Ouais, ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous arrivez à vous dégager un minimum de salaire ?
Bah aujourd'hui, vous savez, les exploitations, comme toute entreprise française, hein, quand elle a bu le bouillon, quand elle a des difficultés, il faut qu'elle prenne du temps pour se redresser. Donc la première chose qui se fait actuellement dans la première année, j'aurais dire, c'est le redressement de la trésorerie, c'est les dettes qui se payent chez les fournisseurs et chez les assureurs, etc., etc. Et puis le deuxième temps, c'est la remise à niveau un petit peu de l'exploitation avec deux, trois investissements qui n'ont pas été faits ou qui ont été reculés, qui sont dans un état un peu délabré et qu'il faut vite refaire. Et puis effectivement les gens retrouvent le sourire parce qu'ils arrivent à tirer un salaire qui correspond, qui a encore rien à voir avec le montant justifié de leur travail, mais qui est en bonne voie et on sent qu'ils vont aboutir à un contact raisonnable avec le travail.
Merci pour votre témoignage, Martial Darbon. Nicolas, peut-être une réaction. J'entends une pointe de dynamique, de renouveau chez Martial, là.
Oui, il faut vraiment signaler que ce prix avait permis de dégager 1500 euros par mois à deux. Il y a beaucoup de travail à faire, hein. C'est-à-dire que c'est pas suffisant, même on l'estime pour nous aujourd'hui. Mais entre ce qu'a présenté Martial, perdre 120 euros en se levant le matin. C'est-à-dire que là, c'est même pas se lever pour aller simplement rien gagner, ce qui est déjà terrible. On sait que s'occuper de 60-80 vaches sur son exploitation, à la fin de la journée, ça va être 120 euros de moins sur son compte. Donc ça, c'était plus possible. Nous, consommateurs, on ne veut plus alimenter.
Mais ça, on ne le savait pas.
Vous avez raison.
Ah, moi, je suis surpris par le consommateur qui ont dit « Ah, il faut payer un peu plus ». Je crois qu'il ne le savait pas. Et aujourd'hui, il vous a prouvé via votre plateforme qu'il était prêt à payer plus.
Voilà, vous avez tout à fait raison. La grande nouveauté, et je vais vous donner une autre info, on ne sait pas qu'il y a le même drame pour les producteurs de viande bovine en France. Il y a une forme de pudeur, il y a, je ne sais pas comment appeler ça, mais nous, consommateurs, on n'avait pas cette information. Parce que si on intègre cette information, cet argent qu'on donne pour payer notre alimentation, on n'a pas envie qu'il serve à alimenter un système qui, à l'autre bout, détruit de la valeur pour
c'est
le producteur.
Clair, c'est clair.
Donc c'est finalement cette première information qui devient un élément de réflexion. Et quand ensuite on donne un vrai pouvoir au consommateur d'aller choisir le bon prix qui à la fois aide le producteur, mais vous l'avez vu en échange, permet de récupérer de la qualité et de la traçabilité, on est dans un rapport gagnant-gagnant qui, à mon avis, a fait le succès de ces Séquil Patron.
Je vais quand même remercier, je ne sais pas si je l'ai fait, mais Martial Darbon, merci pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes le président de la coopérative Bresse-Val-de-Saône. Merci.
Merci à vous.
Merci bien. En chiffres, aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus de 8000 magasins distributeurs de ce lait, c'est qui le patron?
Depuis ce matin, avec l'arrivée des magasins Monoprix, c'est plus de 9000 maintenant magasins.
Ouais.
Ce qui est évidemment incroyable, encore une fois, on est nous spectateurs complètement étonnés, ébahis de ce qui se passe. Hein. Vous vous rendez compte, en moins d'un an, 9000 points de vente se connectent à une offre qui vend des produits créés par les consommateurs. Mmh. La brique de lait, c'est 21 millions, bientôt 22 millions de litres, alors que tout le monde rêvait secrètement de 5 à 7 millions par an. C'est le produit, ça c'est intéressant je trouve, c'est vos confrères du Figaro qui avaient permis de découvrir ça, mais c'est le produit le plus vendu depuis 30 ans en tant que nouvelle marque. C'est-à-dire que avec ce monde qui change, un produit comme celui-là, créé par des consommateurs, sans bureau, sans même de société au départ, parce que c'était les gueules cassées qui hébergeaient le lancement.
Sans pub ni grande opération marketing.
Sans pub, sans commerciaux dans les magasins, voilà, et capable d'avoir des résultats absolument incroyables. Donc c'est porteur d'espoir pour la suite.
Ouais. J'aimerais qu'on parle de vos projets. Depuis que je vous ai rencontré, Nicolas Chabanne, je dois le dire à nos auditeurs, c'était lors des trophées PME Bougeons-nous, organisés par RMC, radio du même groupe, en 2014. Et vous étiez une jeune pousse à l'époque. Et c'est assez remarquable. Depuis 2014, donc tout ça est allé assez vite, hein, finalement, les gueules cassées. Aujourd'hui, c'est qui le patron? J'imagine que le concept même de c'est qui le patron, vous allez le décliner aussi.
Bah, il est
d'autres produits.
Il est fait pour être décliné parce que après le lait, on a eu 50-100 appels entrants qui ont permis de créer un jus de pomme avec un gros soutien aux producteurs qui sont en difficulté. Une pizza, ça c'était les consommateurs qui voulaient savoir ce qu'il y avait dans un produit transformé. D'où vient ce fromage que je mange, cette tomate, c'est quand même dingue de manger des produits dont on ne sait absolument rien. Et puis là, il y a plus de 20 produits. Il y a un partenariat qui s'est créé avec La Quotidienne sur France 5 qui va permettre de créer encore plus de produits en donnant des informations. Et je pense très sincèrement, avec les contacts que nous avons, les demandes, même à l'international, il y a 3 pays qui vont se lancer là dans les 3 prochains mois. Je crois qu'on a inventé, les consommateurs français ont inventé en France là une nouvelle façon de construire un produit, créer un produit, en inversant le système du push et en mettant les consommateurs en amont de l'arrivée du produit. Vous imaginez bien que tout produit commercialisé aura un intérêt à être créé de cette façon-là, parce que ça offre une visibilité claire aux fabricants, ça rassure le distributeur et ça amène des informations et une transparence que le consommateur n'avait pas et qu'il souhaite. Voilà, donc, il y a de quoi imaginer que ça puisse être rapidement un nouveau modèle de développement, marketing et communication des produits alimentaires et non alimentaires.
Je pense que vous allez revenir nous voir prochainement, vous allez quitter votre Ventoux adoré pour venir nous voir, parce que j'ai vu que vous aviez des projets à l'international. Vous nous en avez parlé au nom même de votre entreprise, hein, cette fois-ci, avec une levée de fonds en cours justement pour pouvoir accélérer ces différents projets. Donc je pense que l'aventure n'est pas finie. En plus, vous êtes en train d'inventer un modèle. Merci.
Merci Michel, merci pour ce suivi, et vous avez été dans les tout premiers à nous tendre un micro. Alors on est ravis de revenir vous raconter ce qui se passe désormais.
Merci beaucoup Nicolas Chabanne. À très bientôt. Dans un instant, on ouvre la boîte à outils pour créer, développer ou reprendre une entreprise. À tout de suite.